Il existe bien des moyens de faire la une des journaux. Certains se rendent célèbres par un exploit qui peut être sportif, scientifique ou autre, une démonstration de courage, un sacrifice ou un dévouement exceptionnel. Mais on peut aussi être en première page pour un acte criminel ou se trouver en petit caractère dans les faits divers pour mille et une raisons suite à un bon ou mauvais coup du sort. Dans les Écritures aussi, certains personnages ont droit à une attention particulière parce qu'ils se sont fait remarquer en bien ou en mal. De ce nombre est la femme de Lot, le neveu d'Abraham. Je résume le texte. Les anges se firent pressants, ils dirent à Lot, « Debout, emmène ta femme et tes deux filles qui sont ici, sauve-toi, il y va de ta vie, ne regarde pas derrière toi et ne t'arrête nulle part dans la plaine. » L'Éternel fit tomber sur Sodome et sur Gomorre une pluie de soufre enflammée par un feu qui venait du ciel de l'Éternel. La femme de Lot regarda derrière elle et fut changée en une statue de sel. C'est avec ces dernières paroles quelque peu énigmatiques, j'en conviens, que se termine le passage du livre de la Genèse qui raconte la destruction de Sodome et de Gomorre. On ne sait strictement rien de cette pauvre femme, pas même son nom, et pourtant elle est devenue célèbre parce que Dieu l'a punie pour avoir regardé derrière elle. De toute évidence, elle s'enfuyait de Sodome à contre-cœur. En fait, son cœur n'avait jamais quitté cette ville maudite. Or, Dieu n'aime pas du tout les cœurs partagés. Dans l'Évangile, Jésus a dit « Celui qui regarde derrière lui au moment où il se met à labourer avec sa charrue, n'est pas prêt pour le règne de Dieu. » Et dans le livre de l'Apocalypse, il dit à une église, « Je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. » Dans le royaume de Juda se trouvaient bon nombre d'Israélites qui couraient deux lièvres à la fois, qui étaient partagés, genre femme de Lot, qui tantôt allait au temple pour offrir un sacrifice à l'Éternel, et tantôt se courbait bien bas devant une statue représentant l'idole Baal. C'étaient des tièdes, des adeptes d'un syncrétisme religieux qui, depuis la nuit des temps, et encore aujourd'hui, a toujours fait beaucoup d'émules. Mais à côté de ceux qui zigzaguaient en penchant à droite puis à gauche, il y avait aussi en Juda des idolâtres purs et durs qui ne s'embarrassaient pas de préjugés, qui n'essayaient pas de sauver la face ou de donner le change. Ils étaient froids et même glaciaux envers l'Éternel. Ils adoraient les astres, un point c'est tout. En plus de ces deux catégories d'idolâtres, dans le royaume de Juda, il y en avait une troisième qui ne tenait aucun compte de l'Éternel. Il n'était pas véritablement athée au sens où on l'entend aujourd'hui, mais plutôt déiste, avant même que ce mot existe. Il croyait que Dieu avait démarré l'univers, puis s'en était allé ailleurs, sans se soucier de ce qui pouvait se passer sur terre. Sophonie les mentionne quand, de la part de l'Éternel, il déclare « Je ferai disparaître ceux qui se détournent de l'Éternel, qui ne se soucient pas de lui et qui ne le consultent pas. » Verset 6. Ceux qui, jadis, étaient indifférents aux réalités spirituelles, aujourd'hui ne sont pas forcément athées, mais vivent comme tels en prétendant n'avoir ni Dieu ni diable. Ne pratiquant aucune religion parce qu'ils disent ne pas avoir besoin de béquilles, ils se croient supérieurs à ceux qui vénèrent un dieu. Mais si on y regarde d'un peu plus près, on se rend vite compte qu'en réalité, ces gens sont esclaves d'une passion, l'argent par exemple, pour lequel ils sont prêts à faire n'importe quoi. Ce sont donc des idolâtres comme les autres mortels, mais ils ajoutent à ce travers l'orgueil et l'arrogance, et c'est ce qui va leur attirer le châtiment de Dieu. Je continue le texte. Que l'on fasse silence devant le Seigneur l'Éternel, car il est proche le jour de l'Éternel. L'Éternel a prévu un sacrifice, et il a convoqué ceux qui sont invités. Verset 7. Après avoir mentionné les trois catégories de personnes mûres pour le jugement, le païen, le syncrétiste et le déiste, le fil de la prophétie est brusquement interrompu par un impérieux appel au silence, motivé par l'arrivée prochaine du jour de l'Éternel. Dans les Écritures, il est écrit que la clé de la sagesse, c'est de craindre, révérer l'Éternel. Et il me semble que c'est la moindre des attitudes que la créature doit adopter envers son Créateur. En effet, quand on est dans la présence d'un grand de ce monde, la première chose intelligente à faire est de se taire. À combien plus forte raison devrions-nous garder un silence respectueux envers Dieu? Mais dans notre culture décadente, on a complètement perdu de vue que le Créateur est le Dieu trois fois saint et le Juge suprême. Qu'il soit devenu homme et qu'il ait versé son sang sur la croix ne change rien à la distance qui sépare le Seigneur de l'univers de l'homme. Quand on veut se recueillir et entrer dans la présence de Dieu, il est de bon ton de commencer par faire silence devant Dieu. Sophonie mentionne ici pour la première fois le jour de l'Éternel, une expression qu'il répétera encore 18 fois et qui est plus fréquente dans sa prophétie que dans n'importe quel autre livre de l'Ancien Testament. Ce jour de ténèbres grand et terrible devrait inspirer une grande crainte, car Dieu se manifestera personnellement pour exercer ses jugements. Deux autres prophètes écrivent « Poussez donc des cris de détresse, car il se rapproche à grands pas le jour de l'Éternel, comme un fléau dévastateur déchaîné par le Tout-Puissant. Hélas, quel jour, le jour de l'Éternel approche, comme un fléau dévastateur déchaîné par le Tout-Puissant, il va venir. » Sophonie compare ce jour de jugement à un sacrifice offert par l'Éternel lui-même. La victime est le royaume coupable de Juda, et le châtiment des méchants satisfera la justice divine. Les prophètes de l'Éternel sont à la fois spécifiques et vagues, parce que leurs prédictions ont un ou plusieurs accomplissements, souvent deux, l'un proche et l'autre éloigné. La vision prophétique ne répond pas aux normes cartésiennes de l'expression écrite, mais ce n'est pas non plus un flou artistique. L'interprétation des prophéties oblige le croyant à sonder les Écritures et à beaucoup d'humilité, surtout quand les passages à interpréter sont ardus. Quant aux personnes sceptiques à l'égard des Écritures, les textes difficiles leur donnent une excuse toute faite et même servie sur un plateau d'argent pour justifier leur incrédulité. Quand Sophonie écrit que l'Éternel a convoqué ceux qui sont invités, il ne précise pas le nom des convives, c'est-à-dire ceux appelés par Dieu pour exercer sa vengeance en dévorant Juda. Mais nous savons, par d'autres sources, qu'il s'agit des nations conduites par Babylone et les Chaldéens. Dieu les consacre pour mettre fin au royaume de Juda, comme si sa destruction était une cérémonie religieuse. C'est vrai, mais les Babyloniens auraient bien tort de se réjouir, car le bâton de la colère de l'Éternel se retournera contre eux. Plus tard, ceux qui seront appelés à détruire Babylone partiront également en guerre sainte. Le prophète Ésaïe écrit « Moi, j'ai donné des ordres à mes saints guerriers. J'ai même appelé mes héros pour servir ma colère. » Mes fiers triomphateurs. Je continue le texte de Sophonie. Au jour du sacrifice de l'Éternel, j'interviendrai moi-même contre les princes et les fils du roi et contre tous ceux qui s'habillent à la mode étrangère. Verset 8. Après avoir fait une distinction entre les hommes en fonction de leur rapport religieux vis-à-vis de l'Éternel, Sophonie prononce maintenant un jugement contre ceux qui ont une position sociale élevée dans le royaume. Premièrement, seront punis les princes, c'est-à-dire les chefs de tribus et de familles, les nobles, les magistrats et les ministres, tous ceux qui sont au service du roi et trempent dans la politique du royaume. Ensuite, vient le tour de l'aristocratie dont font partie les fils du roi et les membres de la famille royale. L'Éternel leur reproche de s'habiller à la dernière mode avec des vêtements importés de Ninive et de Babylone. Le problème va au-delà du vêtement, bien qu'ils se rendaient déjà coupables à ce niveau-là. En effet, selon la loi, les Israélites étaient censés s'habiller d'une façon à indiquer qu'ils étaient consacrés au service de l'Éternel. Mais le plus grave était qu'en choisissant la mode vestimentaire étrangère, ils adoptaient en même temps les coutumes et les valeurs païennes, et en particulier l'adoration des faux dieux avec tous les vices qui l'accompagnaient. Le prophète Ésaïe, qui exerça son ministère sous les rois Josias, Jotham, Achaz et Ézéchias, reproche aussi aux femmes de Jérusalem leur attitude, leur tenue et leurs bijoux. Je résume un passage. « Les filles de Sion se sont enorgueillies. Regardez-les qui marchent en redressant la tête, le regard provoquant. Elles s'avancent à petits pas en faisant résonner les anneaux de leurs pieds. En ce jour-là, le Seigneur les dépouillera de leur parure, les anneaux des chevilles, les bijoux luxueux en forme de soleil et de croissant, les pendentifs, les bracelets, les voiles, les turbans, les chaînettes, les ceintures tressées, les flacons de parfum, les amulettes, les bagues, les anneaux du nez, les toilettes de fête et les amples tuniques, les manteaux, les sacoches, les miroirs, les mantilles, les fines mousselines, les bandeaux et les châles. » Fin de citation. Dans cette liste très hétéroclite, plusieurs objets ont un lien direct avec l'idolâtrie. Dans la prophétie de Sophonie, les fils du roi Josias reçoivent une attention toute particulière, mais dans le mauvais sens du terme, puisqu'ils vont être sévèrement jugés par Dieu. Et en effet, Joachaz ne régna que 3 mois avant d'être capturé par le pharaon Necho II et déporté en Égypte où il mourut. Éliakim, un autre fils de Josias, est alors placé sur le trône par le pharaon qui change son nom en Jéhoiakim. Il règne 11 ans avant d'être vaincu par Nabuchodonosor. Il meurt dans des circonstances mystérieuses. Et l'Éternel le déshonora en annonçant par le prophète Jérémie que son cadavre serait jeté dehors et exposé à la chaleur du jour et au froid de la nuit. Jéhoiakim remplace alors son frère Jéhoiakim, mais ne règne que 3 mois avant d'être emmené captif à Babylone. 11 ans plus tard, Sédécias, un autre fils de Josias et le dernier roi de Juda, est capturé par Nabuchodonosor, qui fait égorger ses fils devant lui, puis il lui fait crever les yeux et l'emmène à Babylone. Le châtiment des fils de Josias fut véritablement sévère. Je continue le texte. « En ce jour-là, j'interviendrai contre ceux qui sautent par-dessus le seuil, contre ceux qui remplissent de violence et de fraude la maison de leur maître. » Verset 9. Certains commentateurs ont fait un rapprochement entre l'expression « sauter par-dessus le seuil » et la conduite des prêtres philistins au service de l'idole Dagon. Cette histoire saugrenue et drôle à la fois est racontée dans le premier livre de Samuel. Cependant, il est tout à fait inconcevable qu'une telle coutume, qui était très localisée et qui prouvait l'impuissance des fausses divinités, ait pu être importée en Juda, où l'idole Dagon n'a jamais été populaire. En réalité, sauter par-dessus le seuil est une expression idiomatique qui signifie dérober avec infraction et violence. Ici, il est donc question des serviteurs qui, obéissant aux ordres des grands du royaume, pénètrent de force dans les maisons et les pillent, afin d'augmenter encore davantage les richesses de leur maître. De toute évidence, de tels actes odieux avaient cours avant que le roi Josias soit adulte et capable de prendre les affaires du pays en main. Cependant, dès qu'il a commencé ses réformes religieuses, il est fort probable qu'il a mis fin à de telles pratiques scandaleuses, ce qui ne veut pas dire qu'elles cessèrent complètement. Mais de monnaie courante, elles devinrent des cas isolés. Je continue le texte. On entendra en ce jour-là, l'Éternel le déclare, près de la porte des poissons, des cris retentissants, des hurlements dans le nouveau quartier, et venant des collines, un fracas formidable. Verset 10. Pour bien montrer que le jugement de Dieu atteindra chaque segment de la société, Sophonie prophétise que quand les Chaldéens prendront la ville et exécuteront ses habitants, des lamentations s'élèveront de chaque quartier de Jérusalem. La porte des poissons se trouvait au nord de l'ancienne ville de Jérusalem. Elle avait ce nom parce qu'elle était proche du marché aux poissons où se rendaient les pêcheurs professionnels qui venaient vendre ce qu'ils avaient attrapé pendant la nuit dans le lac de Galilée ou le fleuve Jourdain. C'est aussi par la porte des poissons que Nabuchodonosor a pénétré dans Jérusalem, puisqu'un texte nous informe que le roi Sédécias s'est enfui par le sud. Le nouveau quartier était entouré de collines et situé au nord-ouest de l'ancienne ville. C'était sans doute le centre industriel et commerçant de Jérusalem, si on considère que deux des portes situées à proximité s'appelaient la porte des poissons et la porte des brebis. Je continue le texte. Habitants du mortier, hurlez, lamentez-vous, parce qu'il est anéanti le peuple des Cananéens, tous ceux qui croulent sous l'argent vous êtes exterminés. Verset 11. Qui sont les habitants du mortier? Ce mot qui en hébreu signifie cavité, excavation, pourrait être le nom d'un quartier d'affaires particulier situé dans la vallée qui traversait Jérusalem, allant de la porte des poissons jusqu'au réservoir de Siloé, réservoir dont il est question dans l'Évangile. Une seconde possibilité est que Sophonie a choisi ce mot pour désigner le sort qui est réservé aux habitants du nouveau quartier dont il a parlé dans le verset précédent. Il dit donc, en substance, que les marchands et autres hommes d'affaires cupides, qui ont des pièces d'argent à la place des yeux et une pièce d'or pour cœur, seront comme broyés dans un mortier par les Babyloniens. La phrase « Il est anéanti le peuple des Cananéens » est une autre annonce de jugement. Par ces mots, Sophonie désigne les Israélites qui, dans leurs transactions commerciales, se comportent comme des païens, surtout les Phéniciens, qui étaient roublards et sans aucun scrupule dans les affaires. Ces gens seront réduits au silence éternel parce qu'ils ont amassé des fortunes par l'usure et la fraude, en étant durs et sans pitié envers leurs prochains. La corruption et l'idolâtrie furent les deux raisons principales qui conduisirent l'Éternel à effacer le royaume israélite des 10 tribus du Nord de la carte géopolitique du Proche-Orient. Mais Juda n'a pas su tirer la leçon qui s'imposait de cette catastrophe. Comme le royaume du Sud a refusé d'apprendre par la méthode douce, le Seigneur va sortir le grand jeu et utiliser les Chaldéens comme bâton de sa colère pour enseigner à Juda ce qu'il en coûte de se révolter contre lui. Avis aux amateurs. Je continue le texte. En ce temps-là, je fouillerai Jérusalem avec des torches et je châtirai tous les hommes qui se reposent sur leurs réserves comme un vin sur la lie, se disant en eux-mêmes que l'Éternel ne fait ni du bien ni du mal. Verset 12. Cette déclaration correspond à ce que Dieu lui-même dit des idoles. Mais croire cela de l'Éternel est particulièrement insultant. En conséquence, aucun de ceux qui entretiennent en eux-mêmes de telles pensées n'échappera au châtiment. Il faut bien comprendre que ces Israélites ne sont pas athées, mais déistes. Ils ne se moquent pas ouvertement de la religion et ne nient pas l'existence de Dieu, mais ils ne croient pas qu'il agit en ce bas monde et ils rejettent l'idée d'une moralité d'origine divine. Comme le vin sur la lie, ces gens se reposent sur leur crasse spirituelle, sur leur propre sagesse et compréhension du monde. En fait, ils sont pires que les païens qui, eux, croyaient vraiment que leurs idoles légiféraient entre le bien et le mal. Cependant, quand les Chaldéens envahiront Jérusalem, ces Israélites impies réaliseront à leurs dépens qu'ils se sont trompés, car l'ennemi que Dieu a choisi comme bâton de sa colère va leur faire passer un très mauvais quart d'heure, voire bien davantage. Les Chaldéens fouilleront les moindres recoins de Jérusalem avec des torches afin de débusquer tous ceux qui se cachent dans les repères les plus secrets. Jérôme, père de l'Église, et plusieurs commentateurs après lui citent l'historien juif Joseph qui raconte que lors de la prise de Jérusalem par les Romains, les princes, les grands, et les prêtres s'étaient réfugiés un peu partout, mais qu'ils furent retirés de leurs cachettes, traînés hors des égouts, des fossés, des cavernes et des sépulcres, puis sommairement exécutés. Sophonie prédit qu'une situation semblable se produira au moment de l'invasion de Juda et de la prise de Jérusalem par les Chaldéens. Tout le monde saura alors que ce que l'Éternel dit par ses prophètes, il l'exécute.